Alors, c'est si vrai que...
Au risque d'être, je dirais, jugé comme je ne sais quoi.
C'est une première raison.
Donc c'est tout à fait important puisque...
Non, c'est pas tellement qu'on les connaisse mal.
Regards croisés. Un débat entre académiciens et personnalités. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Édouard Rosset.
Bonjour à toutes et à tous. À l'heure de la construction européenne qui se poursuit, difficilement mais sûrement, Canal Académie essaie de vous donner les clés pour comprendre les grands enjeux de l'Europe de demain. Arrêtons-nous aujourd'hui, si vous le voulez bien, sur un des domaines d'avenir et pour cause, c'est celui de la recherche. Quelle recherche pour la France et l'Europe de demain? Quelle place le vieux continent peut-il et doit-il occuper dans ce domaine face aux autres grands pays de la planète? Une Europe de la recherche, mais à quel coût et avec quels moyens? Je vous propose d'aborder toutes ces questions avec les deux invités de Regards Croisés aujourd'hui, tous deux secrétaires perpétuels de l'Académie des sciences, Madame Nicole Ledouarin et Monsieur Jean Dercourt. Bonjour Madame, bonjour Monsieur.
Bonjour. Bonjour.
Merci de nous avoir rejoints dans les studios de Canal Académie. Alors je peux dire que nous sommes vraiment voisins puisque nos studios, les studios de la première radio académique francophone dans le monde sont situés au palais de l'Institut de France qui est de Conti dans le 6e arrondissement à Paris et que votre académie, donc les sciences, est justement située au même endroit étant une des 5 académies qui composent l'Institut. Alors généralement à la tête de ces nobles compagnies, il y a un seul secrétaire perpétuel, exception pour les sciences. Pourquoi? Peut-être honneur aux dames, Madame Ledouarin.
Je pense que c'est une règle qui a été instituée par le passé et qui est parfaitement justifiée par la diversité des sciences. Il y a les sciences qui sont très conceptuelles, comme les mathématiques, et des sciences expérimentales, dites sciences de la matière. Et parmi celles-ci, il y a les sciences de la terre, il y a les sciences de la vie, il y a la chimie. Pour couvrir l'ensemble de ces disciplines qui sont extrêmement variées, et il est bon qu'il y ait deux personnes qui aient des compétences complémentaires. Je pense que c'est ce qui a été à l'origine de cette institution.
Alors, c'est
de
un travail perpétuel. Un travail d'équipe, effectivement, travail complémentaire, on se répartit les tâches, Monsieur Dercourt.
Voilà, moi, je voudrais que l'on se rappelle que cet Institut de France a été créé pendant la période révolutionnaire, issue du siècle des Lumières, qui a sorti le savoir, les sciences, comme étant les moteurs du progrès. Et ceci a beaucoup animé les conventionnels, puis les hommes et les femmes du directoire, et il était évident à lire leurs textes que le poids des sciences dans la formation de la société française et de l'Empire, puisque rapidement il s'est agi de ça, était prioritaire. Et c'était les sciences de l'époque. Elles ont varié. Nous avons parmi nos membres compté un homme qui a donné beaucoup de gages dans la suite, puisqu'il s'appelait le général Bonaparte. Mmh. Il était venu là en tant que topographe, il connaissait bien ces questions, mais surtout, il montrait l'intérêt. Et puis, il y a eu la campagne d'Égypte, etc., etc. Donc, tout ça a fait que, au sein de l'Institut de France, il y a eu 5 secrétaires perpétuels, dont 2 dans les disciplines, comme Nicole Ledouarin vient de le dire, en donnant les disciplines d'aujourd'hui. Et puis, il y en a eu 1 pour les sciences, l'autre pour les arts, le troisième était pour l'économie politique, pour les sciences de la réflexion, de la société, mais bien vite, cette académie a sombré, elle a émis des avis très défavorables à l'empereur, et il n'est resté que 4 académies, ce que, bien vite, un autre roi a réparé en 1832. Nous sommes devenus 5 académies et nous y sommes maintenant, et il y a toujours ce nombre de secrétaires perpétuels.
Alors ça, c'est pour l'histoire, mais que représente aujourd'hui l'Académie des sciences? Combien d'académiciens, par exemple, son rôle? Quel est son quotidien, finalement, Madame Ledouarin?
Écoutez, l'Académie des sciences, depuis une période assez récente, a été l'objet de 2 réformes consécutives qui ont changé beaucoup son mode de fonctionnement et surtout sa représentativité vis-à-vis de la communauté scientifique nationale. La première réforme a eu lieu en 1975, à l'époque où M. Giscard d'Estaing était président de la République. Et elle stipulait cette réforme qu'il était important que le nombre des membres soit augmenté. Il était d'une cinquantaine de membres, comme c'est le cas des autres académies.
Encore aujourd'hui ?
Encore aujourd'hui pour les autres académies. Il a été porté à ce moment-là à 110 membres. Et ce qu'avait recommandé le président de la République de l'époque, c'est qu'il y ait un rajeunissement des cadres, un rajeunissement des membres, et qu'il y ait aussi une introduction des femmes. Je m'en souviens très bien. C'était tout à fait révolutionnaire à l'époque. Ceci a été suivi quelque temps après par l'élection de la première femme à l'Académie des sciences, qui est une physicienne théoricienne, Madame Choquet-Bruard, extrêmement brillante. Elle est restée seule femme pendant un certain temps. Et ensuite, il y a eu une élection de deux biologistes, Madame Grunberg-Manago et moi-même, la même année, en 1982. Ensuite, d'une physicienne, Madame Buchia. Et après, il y a eu un grand espace de temps où il n'y a pas eu de femme élue. Quelle est la situation aujourd'hui ? Ben, tout d'abord, nous avons eu une seconde réforme qui a encore augmenté le nombre des membres, mais ceci d'une façon vraiment significative, puisque nous sommes passés de 110 ou 120 membres à 250, hein, c'est ça. Et nous avons aussi une nouvelle règle qui est que les personnes que nous recrutons doivent être, pour la moitié d'entre elles, âgées de moins de 55 ans, le 1er janvier de l'année où elles sont élues.
Ce qui est une révolution, quelque part,
c'est
non,
une pour révolution, des académiciens. C'est une révolution, vraiment, c'est une révolution. Alors, ça a eu pour effet, évidemment, d'introduire des gens beaucoup plus jeunes qui sont au milieu de leur carrière. Et par conséquent, ça change quand même beaucoup l'atmosphère et ça ajoute quand même, il faut bien le reconnaître, un dynamisme certain et puis une actualisation aussi des discussions scientifiques qui sont vraiment au cœur de la science telle qu'elle se fait maintenant. Donc nous pouvons nous réjouir énormément de cette deuxième réforme. Alors, est-ce que cette deuxième réforme a concouru à la parité homme-femme ? Eh bien, d'une manière extrêmement faible pour le moment. Voici quels sont les chiffres. En 2004, il y avait 9 femmes sur 191 membres, ce qui fait 4,7%. Et en 2005, nous avons eu quand même un afflux, on pourrait dire, de femmes. Nous sommes 14 femmes sur 215 membres, ce qui représente 6,5%. Alors, je peux vous donner quelques chiffres qui correspondent à d'autres grandes académies du monde.
À titre de comparaison, à titre comparatif, c'est intéressant, rapidement, oui.
Alors, la National Academy of Sciences des États-Unis, en 2004, avait 171 femmes, mais sur 1877 membres, ce qui fait 9,1%. Par conséquent, nous sommes à peu près à égalité du point de vue de la parité, ou de ce qu'on pourrait considérer comme la non-parité. La Royal Society a 53 femmes sur 1244 membres, ce qui est particulièrement faible comme taux, puisque ça fait 4,3%. Et la Royal Society de Suède, qui est l'Académie des sciences de Suède, a 7,7% de femmes, 27 femmes sur 352 membres.
Donc la non-parité n'est pas un cas uniquement français, on l'aura non, bien compris
Nous sommes en train de progresser.
Jean Dercourt, justement, l'Académie des sciences va encore accueillir de nouveaux membres prochainement. Ce sera le 14 juin, précisément, sous la coupole. La consécration pour combien d'impétrants, cette fois-ci ?
Ce sera pour 24, et nous finirons ainsi 4 années au terme desquelles nous avons recruté 100 membres nouveaux. Et ces 100 membres nouveaux, comme Mme Ledouarin vient de le dire, étaient recrutés pour moitié d'entre eux avant 55 ans, et pour l'autre moitié, achèvera de pouvoir être participant au recrutement des autres à 75 ans. Ces deux dates limites ont tout à fait modifié l'allure de l'Académie. Avec cette promotion, celle qui va suivre l'année prochaine, nous aurons atteint le chiffre de 100 nouveaux membres. Et cela a une importance, mais des risques. Tout n'est pas toujours splendide. L'important, c'est tout le rajeunissement des thèmes. C'est de pouvoir compter sur eux dans les grandes périodes et sur des grands problèmes. On parlera de la recherche tout à l'heure. Ils y ont joué, dans ces discussions sur la recherche, un rôle majeur. Il y a une autre difficulté. Il est grand, qui est grande. Assister à nos réunions, pour les plus jeunes d'entre eux, tous ne sont pas parisiens, bien au contraire, est souvent une œuvre difficile. Or, dans le mot académie, il y a le mot se bien connaître, travailler ensemble.
La convivialité aussi.
Il y a la convivialité. Et là, je dois dire que nous n'avons pas encore gagné. Nous allons améliorer les modes de vie pour y atteindre. Mais à toute chose, il y a son pendant et sa difficulté. Simplement, ce qui est évident, c'est que maintenant, l'Académie des sciences est parfaitement représentative dans la thématique de la science qui se fait en France, en Europe et dans le monde, et que les dispositions soient prises avec ce départ à 75 ans pour le processus électoral, qu'il en sera ainsi pour quelques années, et puis dans 20 ans, 50 ans, et bien d'autres que nous ferons modifier les statuts que M. Hubert Curien a signé lorsqu'il était en charge de cette académie il y a peu de temps.
Quelles disciplines sont représentées dans ces 24 nouveaux arrivants?
Nous avons une répartition égale entre les mathématiques, la physique, la mécanique et l'informatique, les sciences de l'univers, la chimie, la biologie intégrative, la biochimie moléculaire et la génétique qui lui sont associées, aussi la biologie humaine et les sciences médicales. Et il y a une répartition égale entre ces unités. Elles ont été longuement discutées. Fallait-il en changer le nombre par rapport au système précédent? Il est apparu que d'avoir trois sections de biologie, dont plus la chimie qui lui est souvent proche, sur huit sections, était un pourcentage qui représente en gros la représentation très forte des sciences de la vie dans la recherche mondiale. Et nous étions à l'aune de différentes disciplines. Ce n'est pas là qu'est notre difficulté. Elle est que il y a des disciplines comme les mathématiques où la place de la science en France est tout à fait prédominante et d'autres où dans le monde variées. La recherche française n'a pas de sens en tant que recherche française, puisque beaucoup de Français œuvrent hors de nos frontières, sont en France comme résidents, comme professeurs ou chercheurs, mais sont en collaboration avec tous les pays du monde. Et ça, c'est une des points que l'on verra. Dire la science en France, j'achète. Dire la science française, ce n'a plus de sens.
Eh bien voilà une bonne conclusion pour la première partie de cette émission. Madame Le Douarin va s'exprimer également sur ce point dans un instant. Nous marquons une très courte pause sur Canal Académie. Canal Académie qui reçoit aujourd'hui, pour parler de l'Académie des sciences et de la recherche en Europe, vous l'avez compris, Madame Nicole Le Douarin et Monsieur Jean Dercourt, tous deux secrétaires perpétuels de l'Académie des sciences. À tout de suite. Nous reprenons le cours de notre émission Regard croisé, qui reçoit, je vous le rappelle, Madame Nicole Ledouarin et Monsieur Jean Dercourt, tous deux secrétaires perpétuels de l'Académie des sciences. Nous parlons de cette académie, la place de l'Académie des sciences 6, donc Quai Conti à Paris, au palais de l'Institut de France précisément, et puis de la place de la recherche. Alors par définition, les choses changent très vite en matière de sciences, de nouvelles disciplines apparaissent grâce à la recherche, il y a sans cesse de nouvelles découvertes, le nombre d'académiciens ne peut qu'aller croissant. C'est un petit peu ce que vous nous expliquiez tout à l'heure, Madame Ledouarin.
Oui, parce que notre souci est que l'Académie représente vraiment la science en marche, la science qui se fait, et que ainsi elle puisse être utile dans la définition des perspectives de ce qui va se passer, de ce qu'il est important de développer. Notre rôle est de nous considérons que notre rôle est un rôle d'expertise, mais c'est aussi un rôle de conseil pour le gouvernement, pour l'exécutif, où mettre les efforts de la société. Dans quelle partie du savoir scientifique faut-il miser particulièrement pour l'avenir, et pas seulement pour l'avenir de l'acquisition de connaissances, mais aussi pour les applications qui résultent des connaissances scientifiques. Parce que justement, Monsieur Dercourt vous a indiqué quelles étaient les différentes sections que nous avons définies de façon à regrouper le mieux possible les différentes recherches qui se font dans le pays. Mais nous avons aussi une intersection qui recouvre un petit peu l'ensemble des sections et qui est appelée intersection des applications de la science. Et ceci nous permet de faire un lien direct entre des recherches fondamentales et leurs applications immédiates et leurs applications dans le futur et passé.
C'est toute la jeunesse de l'Académie des sciences et aussi son actualité, une académie au cœur de l'actualité de la recherche. Alors nous allons parler de la réforme possible encore plus en avant, hein, pour l'Académie des sciences. Peut-être auparavant, élargissons notre photo. Quel est le rayonnement, Madame Ledouarin, de l'Académie des sciences aujourd'hui en Europe et dans le monde ?
De l'Académie des sciences françaises.
Oui.
Ben, tout d'abord, l'Académie des sciences bénéficie d'un grand prestige. J'en suis convaincue et j'en ai des preuves, nous en avons des preuves fréquentes. Un prestige dans le pays, dans notre pays, mais aussi un prestige à l'extérieur. Il y a eu des très grands scientifiques, le nom de très grands savants est attaché à l'histoire de l'Académie, et nous avons eu à cœur, justement, en faisant ces réformes, que les grands savants actuels en fassent partie. Ce qui n'aurait pas été bon pour l'Académie et ce qui lui aurait enlevé sa justification est que des gens de très grands talents n'en fassent pas partie, et des gens qui ont eu des très grandes réalisations. En somme, il faut que tous ceux qui sont bons y soient, même ceux, si bien sûr rien n'est imparfait, tous ceux qui y sont ne sont pas nécessairement des très grands savants. Il y a évidemment
tout toujours, est représenté, tout le monde est représenté.
Mais au moins que tous les grands et tous les très bons y soient. Alors ça, c'est ce que nous avons cherché. C'est ce que cherchent aussi les autres académies des très grands pays, vous savez. Et alors, ce que je voudrais dire, c'est que nous avons énormément d'échanges. Nous avons une délégation particulière avec un directeur, délégué plutôt, qui s'occupe des relations de l'Académie des sciences avec le monde extérieur et en particulier avec les autres académies du monde.
Il y a des travaux en commun, vous menez des
travaux. Alors, il y a des travaux en commun, nous faisons des colloques en commun avec l'Académie des académies, par exemple, de médecine anglaise, la Royal Society. Nous recevons très fréquemment, plusieurs fois par an, des délégations tout à fait qui sont proviennent du sommet des autres académies. Nous avons reçu le bureau de la Royal Society cette année. Nous avons beaucoup d'activités internationales. Et Monsieur Jean Dercourt, qui est très intéressé par cela, va vous les décrire.
Jean Dercourt, effectivement, ces passerelles avec l'international sont très importantes pour faire avancer la recherche aujourd'hui.
Oui, d'autant plus que l'académie a une charge administrative, scientifique par l'État. L'Académie représente la France dans l'Union des sciences internationales qui, aux côtés de l'UNESCO, présente l'état de la recherche en France, participe au très grand programme. Et cette position de représentant officiel est intéressante pour l'Académie et pour la science française, parce que toutes les unions scientifiques thématiques, l'union de mathématiques, d'astronomie, de chimie, de sciences de l'univers, a donc un comité français. Et donc, nous arrivons à faire passer les souhaits de notre communauté au niveau international par ce biais. Et puis, il y a même, dans cette même structure étatique, il y a des instances de programmation internationale, programmation du spatial, programmation des sciences de la Terre, programmation des sciences de la mer, tout objet qui ne peut être qu'international. Et là, avec les agences françaises qui en ont la responsabilité, l'Académie réunie arrive à rédiger ces programmes. Ça, c'est la partie purement par délégation de pouvoir de l'État. Nous recevons d'ailleurs les subventions qu'il faut pour essayer de traiter et de comparer ce problème. Mais il y a d'autres réunions qui se marquent beaucoup par nos publications. Nous y reviendrons peut-être. Absolument. À ces publications, mais il est très important de voir que, encore une fois, la science avec des frontières, c'est un petit peu une vue de l'esprit. Rien de grand dans les opérations d'investissement que sera ITER. Nous n'en savons rien, mais c'est un élément extrêmement précieux pour lequel les unions dont je parle ont pris des positions.
ITER, c'est le futur réacteur nucléaire nouvelle génération.
Voilà.
Qui doit être normalement installé à Cadarache.
Qui pourrait être si les conversations se produisent favorablement. Et il ne faut jamais tuer la poule avant de l'avoir visée. Donc, laissons-nous ça. J'espère que vous avez raison. Laissons-la.
Alors justement, là on arrive au cœur du problème. Est-ce que l'on peut parler aujourd'hui, là je vous pose la question à tous les deux, d'une Europe de la recherche? Est-ce qu'elle existe fondamentalement? Et si oui, à quoi ressemble-t-elle? Madame Le Doirin.
C'est-à-dire que l'Europe de la recherche, c'est un objectif qu'il faudrait absolument arriver à atteindre.
On ne l'a pas encore atteint, aujourd'hui.
Pas vraiment, non. Il y a des collaborations entre les différents pays, il y a évidemment des programmes européens de recherche qui ont financé un certain nombre de recherches dans des pays qui ont travaillé en collaboration, où il y a eu des réseaux de chercheurs qui ont travaillé en collaboration les uns avec les autres. C'était un très bon début. Ça n'a pas donné entière satisfaction. C'était surtout orienté vers des travaux appliqués plus que vers de la recherche fondamentale. Il faut quand même insister, et ça c'est notre rôle à nous, académiciens, de faire comprendre au public et à tout le monde qu'il n'y a pas de recherche appliquée sans recherche fondamentale. Il faut d'abord découvrir les phénomènes, découvrir les mécanismes avant de pouvoir les appliquer et avant de pouvoir profiter des connaissances qu'on a acquises sur ces phénomènes. Par conséquent, la recherche fondamentale est essentielle. Donc, ce que nous souhaitons, nous, maintenant, et les chercheurs en général souhaitent qu'il y ait une véritable Europe de la recherche et qu'il y ait des fonds qui soient dédiés particulièrement à la recherche fondamentale, à la recherche des processus fondamentaux qui permettront une meilleure reconnaissance de la nature et une meilleure connaissance des grands principes physiques, chimiques et biologiques, de façon à ce que des applications importantes pour l'espèce humaine et pour l'environnement et pour la planète puissent en être dérivées.
Si je vous suis bien, l'Europe, les pays qui la composent, n'accordent pas, n'allouent pas encore assez de moyens à la recherche en Europe.
C'est surtout une question d'organisation. Il y a le problème des moyens, mais il y a aussi un problème d'intention. Il y a un problème de programmation. Il faut
Et de volonté politique
voilà,
aussi.
Voilà, de volonté politique. Il faut absolument, d'après nous, et ça j'espère que ça va être, ça va pouvoir se développer, il faut qu'il y ait une véritable Europe de la recherche. On ne peut pas dire qu'elle soit pour le moment extrêmement efficace. Par rapport, par exemple, à la puissance de recherche d'États comme les États-Unis, nous ne sommes quand même que, nous sommes très morcelés Et nous pourrions faire beaucoup mieux si nous avions pouvions faire des efforts en commun, concertés en commun. Il y a quand même beaucoup, c'est une civilisation, la civilisation européenne, qui a une tradition extraordinaire dans le domaine de travaux de l'esprit, et par conséquent, nous devrions pouvoir aller beaucoup plus loin que nous allons.
Alors, besoin de plus de moyens financiers, besoin de volonté politique, de plus de considération peut-être aussi à l'égard des chercheurs, non, monsieur Dercourt, pour éviter cette fameuse fuite des cerveaux.
Oui, mais si vous voulez, votre question est à deux temps, n'est-ce pas ? Et vous en rajoutez un troisième. Le premier temps, c'est l'Europe. Il s'est fait de l'Europe indépendamment des structures de l'Union européenne. Et elles ont très bien marché. Le centre d'études de recherche nucléaire situé à Genève est un organisme inter-État. Il n'est pas avec l'Union européenne. En revanche, la Commission européenne, d'abord, et depuis quelques années, a construit un embryon d'Europe de la recherche, en ayant des programmes qui étaient difficiles à obtenir, qui étaient administratifs, pour être juste. Et ainsi, on se sont mis à travailler de façon régulière pour un certain nombre d'années, 4 à 8 s'il y avait renouvellement, sur des programmes. Des amitiés se sont faites, les thèses se sont soutenues dans un pays et dans l'autre. Un programme très fort de mobilité des jeunes chercheurs. Rappelez-vous des films qui se passaient à Barcelone, n'est-ce pas, où on voyait tout à fait cette solidité arriver. Ceci a été un très grand succès. Un très grand succès avec des moyens très modestes qui étaient alloués, mais il y avait une volonté politique très forte. Puis est venu, il y a quelques années, des réunions des politiques au nom de l'Union européenne et qui se sont tenues à Lisbonne. Et là, des objectifs qui se révèlent vraiment très lointains ont été faits, de faire de l'Europe un compétiteur des États-Unis. Et pour cela, nous en sommes extraordinairement loin. Et l'Union européenne, la solidité de ce qui s'est construit, à la date où nous nous réunissons aujourd'hui, nous avons la crainte que ce mouvement s'atténue, s'affaiblisse, s'affadisse. Il était nécessaire que l'Europe puisse être le mouvement associant pour constituer, le restera-t-elle ? Aura-t-elle la confiance ? Le pourcentage de crédit alloué par les États restera-t-il 1% ou grandira-t-il pour que l'objectif de Lisbonne de faire de l'Europe un partenaire grandissant par la recherche et l'innovation, ça nous ne le savons pas.
C'est un cri d'alarme que vous lancez.
C'est un cri d'alarme, c'est l'inquiétude au milieu du guet. Est-ce que nous n'avons pas récemment décidé de quitter un bateau qui allait trop vite ? Et pour les chercheurs, pour la recherche, c'est en effet ou de la recherche internationale, une troisième fois je vous le redis, ou de la recherche européenne, sinon, là où les choses vont le mieux, iront les chercheurs les meilleurs. Et ils iront les meilleurs parce que le marché de l'emploi y sera développé et parce que les moyens leur seront offerts. La recherche européenne naît, elle croît, va-t-elle le faire encore ? Des innovations sont risquées. Un conseil européen de la recherche est en gésine. Est-ce qu'il aura lieu ? Est-ce que ce seront bien des programmes associant les différents pays d'Europe pour améliorer la perception d'une Europe scientifique, ou seront simplement des suppléments de crédit donnés à tel pays ou à tel autre et revenir à, vous vous souvenez, my money back. Et est-ce que la science, qui était partie pour être beaucoup plus large, vivra avec cette idée my money back pour chaque nation. Ce serait une catastrophe et un éteignoir sur la recherche scientifique européenne.
Nous allons marquer une nouvelle pause avant de poursuivre cette conversation très intéressante. Canal Académie, la première radio académique francophone au monde, dans l'émission Regards croisés, accueille aujourd'hui Madame Nicole Ledouarin et Monsieur Jean Dercourt, tous deux secrétaires perpétuels de l'Académie des sciences françaises. À tout de suite.
Les avancées dans la recherche médicale et les espoirs thérapeutiques de demain, Canal Académie vous propose une douzaine d'émissions sur ce thème. Quand l'imagerie médicale permet de lutter contre le cancer, quand la technique satellitaire peut servir à guérir en Afrique, quand la chirurgie appose une greffe sur un visage, mais aussi quand les médecins et les philosophes s'interrogent sur le clonage thérapeutique et la bioéthique. Soyez à la pointe des dernières découvertes et avancées médicales grâce au travail de diffusion du savoir par l'Académie des sciences.
Canal Académie parle de la science dans Regards croisés, votre émission Regards croisés accueille aujourd'hui Madame Nicole Ledouarin, Monsieur Jean Dercourt, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, située donc au palais de l'Institut de France, quai de Conti à Paris, où sont également installés les studios de Canal Académie. Madame Ledouarin, n'y a-t-il pas un paradoxe dans ce que expliquait il y a quelques instants Monsieur Dercourt, à savoir que la prise de conscience visiblement n'est pas encore là, il y a un manque évident, pas tant de volonté politique en matière de financement et de développement de la recherche en Europe. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe dans le fait que cette recherche, cette innovation, ce sont les gisements d'emploi de demain et peut-être pas si loin que ça, c'est un problème à court terme?
Tout à fait. Il est très, très curieux de constater le désintérêt des politiques vis-à-vis de la recherche et vis-à-vis des perspectives économiques que la recherche offre. Nous avons pourtant des exemples extraordinaires. Le développement de l'informatique a été à l'origine de richesses considérables et qui ont profité particulièrement aux États-Unis et à d'autres pays aussi, asiatiques en particulier. Du moins, ils sont sur le chemin de se développer considérablement dans ce domaine. Alors, si l'Europe ne réagit pas d'une manière extrêmement rapide et extrêmement énergique, eh bien, nous verrons le progrès venir ou bien des États-Unis, comme cela a déjà eu lieu, mais aussi de l'Asie. Mais aussi de la Chine, de la Corée, par exemple, qui avance énormément dans les biotechnologies, comme nous l'avons vu récemment.
L'Inde.
Et de
aussi.
L'Inde. En particulier.
Grosse épée
alors,
de Damoclès.
C'est tout à fait curieux de voir ça et de voir le peu de réaction vis-à-vis. Il a fallu que les chercheurs se trouvent dans la rue et protestent vraiment pour que l'opinion publique et aussi les hommes politiques se rendent compte qu'il y avait un véritable problème et que la recherche française était sinon en déclin, mais du moins sur la bonne voie pour décroître en importance.
Alors ça, c'est le constat, mais il y a aussi les solutions, on peut être proactif, c'est ce que veut faire l'Académie des sciences française. Vous travaillez à cette réforme, tous les deux. Concrètement, s'il y avait une mesure à prendre demain pour développer la science, pour renforcer, Madame Ledouarin, ce que vous expliquez tout de suite,
écoutez, d'abord, de toute
la
façon,
mesure que vous prendriez, vous, laquelle serait-elle?
De toute façon, il ne faut quand même pas se leurrer. C'est vrai qu'il y a des réformes de structure à faire pour la recherche, pour les chercheurs. Mais il y a surtout un problème de fonds, un problème de crédit, un problème d'argent. Il ne faut pas se leurrer. Les jeunes se détournent des carrières scientifiques parce que les carrières scientifiques sont terriblement peu attractives.
Mal payées.
Extrêmement mal payées.
Dotées de peu de moyens.
Dotées de peu de moyens. Nous ne sommes pas compétitifs quand nous avons des jeunes brillants. Nous ne sommes pas compétitifs en France pour leur offrir les moyens de travailler.
Et on ne les retient pas.
Mais non, ils s'en vont. Ils s'en vont. Alors, ça, c'est très inquiétant. C'est très, très inquiétant. Donc, il faudrait modifier incontestablement les structures qui sont beaucoup trop rigides, qui sont sclérosées, et il faudrait On l'a dit, mais ça c'est un problème de société en général. Il s'agit de savoir si dans un travail, dans un métier à risque comme la recherche, il faut privilégier le confort que fournit une situation à revenu médiocre pendant la vie entière, ou au contraire une situation où vous pouvez donner vraiment le meilleur de vous-même avec une vie confortable et surtout des moyens pour travailler, tout en ayant le risque, si vous ne réussissez pas, d'être obligé de vous réorienter. Et alors là, je crois que ça, c'est sur ça, c'est un peu darwinien, mais enfin, c'est sur ce type de principe que sont basées toutes les grandes aventures humaines. C'est pas sur la recherche d'une sécurité absolue. Mmh. Là, il y a quelque chose qui ne va plus dans le domaine de ce type de travaux. Et c'est très difficile à faire accepter à la société française telle qu'elle est.
Jean Dercourt.
Oui, nous sommes là au cœur d'un problème majeur. Le cœur de ce problème majeur est qu'il est impossible d'isoler le chercheur dans la nation. Un chercheur, il est à sa place, bien sûr, dans des établissements spécialisés. Il est à sa place dans l'industrie. Il a là à innover. Il ne faut pas qu'il soit coupé des premiers. Le chercheur est à sa place à l'université. C'est dans les universités que se font la majorité des recherches. Certes, avec les relations contractuelles, avec les établissements et les agences de ce produit. De vouloir isoler le chercheur en tant qu'animal unique, qui le reste toute sa vie dans les conditions que vient de décrire Nicole Ledouarin, est une spécificité française. Nulle part ailleurs, les universités et les chercheurs sont coupés l'un de l'autre. Ainsi, un jeune rentre et ne sait pas bien s'il ira vers un métier d'ingénieur, vers un chercheur professionnel pour quelques années, vers les métiers d'enseignant supérieur qui impliquent de la recherche. Il ne le sait pas. Nous avons un système tel que, sorti du baccalauréat, vraiment l'essentiel de la carrière est choisi. Et la carrière est choisie sans s'être jamais frottée ni avec la recherche, ni avec l'économie, ni avec les relations humaines. Cet isolement, cet entêtement à vouloir très tôt dessiner de la vie a deux effets néfastes. Je viens de parler du premier. Et si l'on parlait du plus grave, celui qui fait qu'à la fin de l'enseignement obligatoire, en classe de troisième, on a la moitié des élèves qui se dirigent vers l'enseignement général ou vers l'enseignement technique et l'autre moitié vers l'enseignement professionnel, et que là, ils n'y sont pas traités comme dans tous les autres pays du monde, et que les plus grands gisements de chômeurs se construisent dans cet enseignement-là. C'est le désir de couper les communautés en petits morceaux et menus, en laissant à certaines parties le soin de se diriger comme elles le veulent sans pouvoir jamais plus rechanger. C'est ça qui caractérise l'enseignement supérieur, l'enseignement général. Voyez-vous...
Vous appelez une révolution copernicienne.
Non, de simplement être à l'aune de tous les pays développés. Nous avons des spécificités, la baguette de pain, le béret basque, et notre système d'enseignement supérieur et de recherche. Et il y a des retouches. Il allait s'en faire, et j'espère qu'elle va aboutir, une très saine réforme de la recherche, où les lois donnent des éléments extrêmement précieux, mais ce ne sont que des retouches. L'essentiel qui serait l'unité entre la préparation à la recherche industrielle, la préparation à l'enseignement supérieur et la préparation aux carrières de recherche à vie, celle-ci n'est pas touchée. Et la réforme en cours est excellente, espérons qu'elle réussira. La part qu'a pris notre président Édouard Brézin dans cette affaire est majeur et il l'a fait avec le soutien de toute l'Académie, mais ce ne reste qu'une réforme qui s'intéresse à une petite partie de la recherche française. Et cela n'est pas à l'image de ce que pourrait être la recherche dans notre pays.
Alors, vous voyagez tous les deux beaucoup, vous êtes toujours aux quatre coins du monde. Est-ce que l'on est conscient de cela chez les confrères étrangers? Est-ce qu'on vous dit tout le temps, ah bah dites donc la France, vous pourriez peut-être faire mieux? Que se passe-t-il chez vous,
oui,
Madame Ledouard?
Oui, absolument.
Il y a une prise de conscience à l'étranger de ce problème.
Nous sommes très connus pour l'emploi scientifique. C'est l'emploi scientifique qui n'est pas bon. C'est la manière dont sont gérées les carrières, c'est ce qu'a dit M. Tercourt, c'est ce que je vous avais dit avant, c'est cette recherche de la sécurité, cette séparation, ce cloisonnement entre les universités et la recherche dans les grands organismes, cet engagement, ce manque de souplesse au cours des carrières, le fait aussi que on ne laisse pas suffisamment d'initiative aux jeunes. Alors maintenant, il y a une amélioration dans ce domaine-là. Il y a eu plusieurs ministres de la recherche qui ont compris qu'il fallait faire confiance aux jeunes plus tôt et leur donner des moyens de diriger leur recherche eux-mêmes et de monter leur laboratoire, d'avoir leur propre groupe, leur propre responsabilité plus jeune. Alors là, il y a une prise de conscience, mais c'est très insuffisant. Moi, j'espérais beaucoup qu'avec le contact des avec l'Europe, et ceci permettant un contact plus étroit avec d'autres pays qui sont un petit peu plus souples dans leur organisation, on aurait un changement, on aurait une évolution un peu plus rapide. Alors, je l'espère toujours, mais je crois que c'est indispensable, en effet.
En tout cas, le message, nous le percevons bien sur Canal Académie aujourd'hui. Alors, il y a un savoir-faire, encore faut-il le faire savoir. Des institutions comme les académies ne souffrent-elles pas, Jean Dercourt, ne souffrent-elles pas trop d'un manque de communication vers l'extérieur des murs? Un peu comme si l'on ouvrait la coupole, hein, tout le monde connaît la coupole en face du Pont des Arts, et qu'en jaillisse un cerveau bien rempli et prêt à semer aux quatre vents.
Bien écoutez, d'abord, notre présence à votre table est un effort dans ce sens. Il faut en effet le faire. Nous le faisons tout d'abord pour les scientifiques du monde entier. Nous publions les comptes rendus de l'Académie des sciences en 7 séries dans toutes les disciplines. Notre majeure partie de clientèle, parce que ça on peut la mesurer, elle est hors d'Europe. Et certes, cela se paye de devoir avoir des parts importantes des textes en anglais, puisque c'est le latin des scientifiques. Mais c'est une première démarche traitée avec nos pairs. Un deuxième point pour lequel nous faisons un effort très significatif à la demande d'un comité interministériel de la recherche, c'est que nous rédigeons des rapports sur les domaines de sciences et technologies qui nous paraissent nécessiter une intervention publique. Ce fut la génomique pour commencer, les maladies infectieuses sont maintenant, les matériaux du nucléaire, la fusion nucléaire, les cellules souches, tout ceci est destiné à nos décideurs, puisque c'est des textes qui nous ont demandé, et nous essayons d'entretenir avec eux, avec l'office parlementaire, des liens étroit. Et je dois dire que sur beaucoup de ces points, l'Académie a été suivie. Il y a même une volonté qu'a créée et développée Nicole Ledouarin, c'est une lettre faite pour tous les intellectuels et je range tous les académiciens de tout l'Institut dans ce lot et bien d'autres, où l'on donne le point sur la physique, le point sur l'histoire des sciences, le point sur le développement, la biologie du développement, etc. Nous avons créé une cellule pour essayer de nous entretenir mieux avec la presse. C'est toujours difficile. Nous essayons de le faire. nous essayons de prendre des réalisations. Certaines sont très écoutées, mais peu entendues. Nous avons fait à nos collègues, Roland Douce a présenté un remarquable rapport qui fera date sur les OGM, mais cela n'a pas bougé beaucoup, ni la volonté des politiques qu'ils sont en train de dialoguer avec leurs électeurs et qui leur en voudrait. C'est leur fonction. Mais loin aussi des médias qui demandent aux scientifiques la question qu'ils ne pourront jamais répondre. Êtes-vous certain de ce que vous dites? Si nous étions certains de quoi que ce soit, nous ne serions pas scientifiques. Nous doutons systématiquement, nous faisons reculer loin de nous, et les générations se succèdent, loin de nous les domaines peu connus, mais il peut arriver qu'un monsieur vous dise par un point extérieur à une droite, nous avions appris qu'il ne passait qu'une ligne parallèle et une seule. L'humanité a vécu avec ça pendant 25 siècles. Et d'autres, aujourd'hui, ont mis cela en doute. Donc, demandez à des scientifiques s'ils sont parfaitement certains de ce qu'ils disent. C'est absolument impossible. Et je vous pose la question, pensez-vous que ce soit possible, allant voir un médecin, de lui demander « Êtes-vous sûr de me guérir, docteur ?» Et si un seul vous dit oui, alors je vous suggère d'en changer.
Mais les journalistes n'aiment pas dire de bêtises, donc c'est pour ça qu'ils cherchent certainement cette caution.
Nous ne la leur donnerons jamais, d'où une difficulté très grande à ouvrir les portes. Nous nous y efforçons, mais elle est réellement très grande.
Nicole Ledouarin.
La science se rapproche de la vérité avec énormément de foi. Et de succès. Je ne veux pas être aussi pessimiste que mon collègue, parce que quand même, l'expérience et les applications de la science montrent qu'il y a une immense part de vérité dans les résultats scientifiques. Par conséquent, il faut garder confiance en la science.
Je garde tout à fait confiance en la science. Je dis qu'il ne nous faut pas nous demander des engagements en disant, comme lorsque nous faisons des réunions publiques. Savez-vous tout sur telle question? Nous ne pouvons pas dire « nous savons tout ». Il n'y a qu'à regarder autour de soi. Quand on entend dire « tout va mal », regardez, on n'a jamais eu tant de cancers, tant de maladies variées, tant de malnutrition, tant de difficultés. Chacune de ces affirmations est fausse. Chacune se justifie par autre chose que l'argument qui est donné. Mais nous n'arrivons pas toujours suffisamment à convaincre, et je crois que c'est notre honneur de dire nous pensons et avons les preuves que nous avons le droit de penser cela, mais nous ne savons pas si c'est la seule des interprétations possibles. Et c'est vrai, même pour les vérités que l'on croyait éternelles, établies par les grands anciens, je l'évoquais tout à l'heure.
Et en tout cas, on retiendra l'optimisme de Madame Ledouarin en l'occurrence. Nous marquons une toute dernière pause dans cette émission avant de nous retrouver pour conclure. Dernière partie de cette émission Regard croisé, consacrée à la recherche et en l'occurrence à l'Académie des sciences française, donc située au palais de l'Institut, l'une des 5 académies de l'Institut de France. Nous en parlons avec les 2 secrétaires perpétuels des sciences, Madame Nicole Ledouarin et Monsieur Jean Dercourt. Nous parlions tout à l'heure justement des moyens pour mener tout cela à bien. Madame Ledouarin, qu'en est-il du mécénat scientifique ? Est-ce que l'on peut s'arrêter quelques instants sur ce point ? Est-ce que l'une des solutions pour le financement de la recherche passe par ce mécénat ?
Écoutez, je le crois de plus en plus. Ça n'était pas dans les habitudes ni dans les principes de la République. L'État devait subvenir à l'enseignement, à l'éducation et aussi à la recherche. Mais l'État est en difficulté permanente. C'est un premier point. Les recherches coûtent de plus en plus cher et il est important que des mécènes, parce que nous sommes quand même dans une économie libérale, par conséquent il y a un certain nombre de compagnies ou de personnes privées et qui ont des moyens énormes. Et il y a aussi des gens qui s'intéressent au progrès de la science et qui sont souvent des gens qui n'ont pas énormément de moyens. Mais en se mettant à plusieurs, on arrive à avoir des fondations, des associations, le Téléthon et des choses comme ça qui permettent de lever des fonds pour la recherche qui sont non négligeables, qui sont même très importants. Par exemple, le Téléthon a permis de faire des progrès importants dans les domaines de la génétique, des maladies génétiques. La Fondation pour la recherche médicale, qui est le résultat de dons qui sont quelquefois des dons modestes, mais qui sont nombreux, permet de financer des chercheurs dans le début de leur carrière et aussi d'apporter de l'aide à des laboratoires. Et maintenant, le mécénat qui correspond à des grandes compagnies, eh bien, il n'était pas très important en France, surtout dans le domaine des sciences. Mais maintenant, il le devient, et en particulier à l'Institut de France. L'Institut de France a eu le plaisir de recueillir, a maintenant le privilège d'héberger des fondations qui aident la recherche scientifique et qui sont des fondations importantes au point de vue financier, qui distribuent des fonds. Surtout pour des prix, des grands prix, ce qui augmente le prestige de la recherche et le prestige de la France. Souvent, ces prix sont donnés à des grands savants qui ne sont pas français, mais néanmoins, c'est tout à fait essentiel pour le progrès de la recherche. Alors, je crois que dans d'autres pays, comme par exemple les pays anglo-saxons, le mécénat scientifique joue un rôle très important. En Angleterre, par exemple, la compagnie Wellcome, la grande compagnie pharmaceutique, a fait à côté de la compagnie elle-même une fondation dite le Wellcome Trust qui est à l'origine du financement de plusieurs laboratoires, de très grands laboratoires, c'est-à-dire qu'ils construisent les murs, ils payent toutes les dépenses de fonctionnement et ils payent tous les chercheurs et les professeurs. Le fonds du Wellcome Trust en Angleterre est équivalent, peut-être supérieur, je ne sais pas, au fonds du National Research Council. Donc, c'est très, très, très impressionnant.
Et on en est loin, nous, en France.
Alors, aux États-Unis, c'était énorme. Mais il y a aussi des fonds publics qui sont très importants, mais il y a des fonds privés qui sont extrêmement importants. Alors en France, on en est loin.
Mais l'Institut fait beaucoup.
L'Institut est en train de jouer un rôle très très important dans ce domaine-là. Et j'en suis très heureuse et très fière, je dois dire.
Jean Dercourt.
Oui, nous nous trouvons devant des types de sociétés différentes. La recherche est régalienne dans la psychologie française, et je dois dire latine. Elle est très liée à ceux qui en tirent profit dans les pays anglo-saxons. Et dans ces pays, les lois n'ont pas la même décision sur les utilisations des revenus des sociétés et des personnes. Et les crédits libérés qui sont disponibles sont beaucoup plus importants. Et en effet, que serait la recherche dans beaucoup de pays, même européens, s'il n'y avait le mécénat ? Une loi nouvelle vient d'être produite. Cette loi apporte des possibilités de dérogation à un certain nombre de taxes et permet donc à des sociétés, à des fortunes privées, de dédier une partie de leurs fonds à des institutions. Alors, à côté de cette formidable élan populaire que Madame Le Doirin rappelait, qui est des fondations individuelles, le Téléthon en est l'exemple, mais les quêtes publiques sur la voie publique, etc., sont fréquentes, est en train de commencer à se développer. Et il faut dire que, à côté des prix évoqués, c'est surtout des subventions qui sont apportées à des chercheurs, pour eux et leurs laboratoires. C'est aussi des attributions de bourses postdoctorales pour mettre le pied à l'étrier à un certain nombre de jeunes. L'Institut de France, sous la houlette de Pierre Messmer, est en train de commencer ce chemin-là. C'est très difficile à inventer le chemin. Il faut être sûr qu'il y a une juste répartition, juste voulant dire une répartition fondée sur l'excellence. Nous le faisons, il faut être vigilant, il faut réussir ce chemin, et d'autres, j'en suis sûr, rejoindront les promoteurs actuels. Et il faut bien penser que sans bourse ici, 30 là, donnés à des jeunes docteurs, en les mettant en action, en synergie avec de jeunes professeurs ou de jeunes directeurs de recherche, voilà 2, 3, 10, 20, 50 équipes qui sont créées. Eh bien, vous savez, ces 50-là feraient avancer la recherche d'une façon considérable. Ce qui ne veut en aucun cas dire que ça se substitue à la fonction régalienne, cela veut dire que ça s'additionne du moment que nous garantissons que l'excellence scientifique est le seul motif de l'attribution. Et sous la houlette de Pierre Messmer, je vous garantis que cela est assuré.
Merci infiniment à tous deux pour vos témoignages très précieux sur cette Académie des sciences, sa place dans le monde, sa place dans la recherche en Europe. Nous aurons l'occasion d'en reparler bien sûr, notamment à travers les prochaines coupoles prévues, et nous aurons le plaisir, l'honneur d'accueillir les nouveaux arrivants donc à l'Académie, les prochains académiciens jeunes pour assurer l'avenir de cette Académie. Nous aurons l'occasion de les accueillir sur Canal Académie pour parler de leurs travaux, de leur carrière, de leurs ambitions. Évidemment, il y a beaucoup à dire. Merci infiniment Madame Nicole Le Doirin, merci Monsieur Jean Dercourt, tous deux secrétaires perpétuels de l'Académie des sciences. Je vous dis à très bientôt.
Et grand merci.